dimanche, Marine a préparé le café. Merci Marine. J'ai vaguement préparé cette intro.
Merci Yael.
Et les cloches viennent enfin d'arrêter de sonner. Bienvenue dans la semaine berlinoise.
This is an awesome feeling when you are so close.
Bienvenue dans cette troisième édition de la semaine berlinoise. Nous sommes le dimanche 13 août. J'espère que vous allez avoir la possibilité de l'écouter très très vite parce que je l'aurai monté à la vitesse de la lumière. Vous allez voir, cette semaine, on n'a pas fait grand chose, en tout cas pas grand chose de pop culturel. On avait une vie cette semaine, tout simplement.
Tout à fait.
Mais dans cette vie, justement, bien sûr, il y avait un peu de pop culture quand même, donc on va vous en parler. J'ai surtout passé une grande partie du début de la semaine à finir une compilation pour mon petit frère qui a 19 ans et je voulais lui donner tous les trucs que moi j'écoutais quand j'avais son âge.
C'est génial.
Thank you. Et je suis très très heureuse de pouvoir la partager aussi avec Marine puisqu'elle était présente pour beaucoup de ses coups de foudre musicaux à l'époque. Et donc je vais commencer avec une chanson de cette compile pour ma chanson de la semaine. C'est une chanson que moi j'ai découverte en 97 en Russie, une fois de plus. J'avais acheté au détour d'un marchand à la sauvette dans une rue une compilation de musique alternative qui s'appelait Best of Commercial Alternative 97. Et dessus, il y avait une chanson d'une nana qui s'appelle Tracy Bonham, dont je n'ai jamais entendu parler avant ou après. Cette chanson s'appelle Mother Mother. Et elle décrivait tellement, mais tellement bien ce que je ressentais quand j'étais à 17 ans en Russie et que j'avais froid et que j'avais faim et que je ne savais pas ce que je foutais de mon existence. Alors voilà. Je vous propose d'écouter Mother Mother.
Mother Mother, how's the family? I'm just calling to say hello. How's the weather? How's my father? Am I lonely? Heavens no. Mother Mother, are you listening? Just a phone call to ease your mind. Life is perfect, never better. Distance making the heart grow blind. When you send me off to see the world, were you scared that I might get hurt? Would I try a little tobacco? Would I keep on hiking up my skirt? I'm hungry, I'm dirty, I'm losing my mind. Everything's fine. I'm freezing, I'm starving, I'm bleeding to death.
J'avoue que la façon dont elle dit Everything's fine, c'était extrêmement caractéristique de ce que je ressentais à l'époque. C'est rigolo parce que ça marche aussi quand t'as 22 ans, mais moi je me sentais bien, ouais, bien dans cet esprit-là, et surtout le I'm freezing, I'm starving, c'était tellement proche. Voilà, j'avais faim en Russie parce que, bah, pour plein de raisons, mais parce que dans les familles d'accueil russes, on n'avait pas beaucoup à manger et on avait tendance à développer une obsession sur la bouffe. Notamment, on regardait des épisodes de Beverly Hills doublés en russe et on juste pour les voir manger des burgers et boire des milkshakes au Peach Pit. C'est pas une blague. Donc voilà, tout ça pour dire que cette chanson me rappelle plein de souvenirs et en même temps c'est rigolo parce que c'était apparemment un gros tube aux États-Unis, mais
en France, il n'y avait pas du tout de. Enfin, j'ai envie de parler grâce à toi parce que tu m'as fait des cassettes. On se faisait des cassettes, on s'envoyait des cassettes de Russie en France, chacune avec nos. Ouais. Nos favorite songs et puis des petits bonus des dialogues de Friends.
Oui, moi, c'est ça.
C'était Friends à l'époque.
Bah, c'était des trucs que j'avais enregistrés sur des cassettes. Maintenant, je l'ai fait à Buffy au retour de Russie. Toi, tu l'as regardé pendant que j'étais en Russie. Au retour de Russie, tu m'as dit oh, faut que je regarde ce truc, c'est génial. Mon Dieu. Et c'était vrai. J'avais décidé d'arrêter de faire mais du coup, là, ce sera le seul que j'aurai le droit de faire. C'est d'ailleurs avec une de ces compiles que j'ai vraiment su qu'on était BFF. On s'est connus que quelques mois avant que je parte en Russie. On avait une amitié déjà symbiotique. On a passé toutes nos journées ensemble le dernier mois et tout. On dormait au même endroit.
Les deux derniers mois.
On était toutes ensemble 24 heures sur 24, autant que possible en tout cas.
Ma famille te détestait.
Mais ma mère en avait marre aussi parce qu'elle était là, je peux profiter un peu de ma vie. Surtout, ils croyaient tous qu'on était ensemble.
Mais elle me détestait pas quand même.
Oui, mais ils croyaient tous.
Mais bon, après, on croyait qu'on. Oui, c'est vrai que.
Du coup, tout le monde pensait.
On envoyait des extraits de notre journal, parce qu'en fait, c'était un journal intime.
C'était après en Russie, mais dès le départ, le fait qu'on passe autant de temps ensemble, les gens pensaient qu'on était ensemble. Mais techniquement, on s'adorait, c'est vrai.
Oui, certes. Les gens disaient aussi, c'est juste un début d'amitié, vous allez voir, ça va pas rester, etc. Genre. Si.
20 ans plus tard, elles font un podcast ensemble et elles vivent ensemble et voilà. Alors, j'ai dit que j'arrêtais de faire. En tout cas, quand j'étais en Russie, au bout de 6 mois, un jour, tu m'as envoyé une compile et pratiquement toutes les chansons qui étaient sur la compile étaient sur un CD que je venais de récupérer, que j'avais limite dû stratégiser pour l'emprunter à une nana qui me détestait en passant par quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir les chansons, les précieuses chansons que étaient sur cet album. Et bingo, une semaine plus tard, tu m'envoies une cassette et les chansons sont dessus. Et ensuite, on découvre que cet album n'existe même pas en France, que tu l'as eu par hasard, par un truc de courrier. C'était quoi? C'était le truc
c'était
où
on
commandait des
site,
CD.
C'était un site où tu pouvais acheter des CD. Je sais même plus comment ça s'appelait.
Toujours est-il que cette compile qui s'appelle The Best Anthems, Indie Anthems, ça m'a prouvé à quel point on était sur la même longueur d'onde, même quand on était à 2000 km de différence.
Exactement.
Et du coup, Mother, ça me rappelle toute cette période-là. D'ailleurs, j'ai réalisé que dans ce podcast, la semaine dernière, je parle tout le temps de la Russie. Mais on voit à quel point c'est fondateur. Mais bon, passons aux choses sérieuses. On va parler de notre semaine. Alors, donc, notre semaine, on va commencer par raconter un peu notre vie, parce que cette semaine, on a, comme on dit, pas eu le temps de faire grand-chose. Alors, il y a eu l'anniversaire de Petit Bert, mon petit frère, mais il y a eu aussi
le déménagement.
Voilà, il se retrouve qu'il y a des gens qui, pour des raisons inexplicables, quittent Berlin.
Tante de Berlin.
Ce dont on a déjà...
Hashtag Nathalie. Que vous ne connaissez pas, mais qui part de toute façon. Vous n'avez pas vraiment besoin de la connaître, vu qu'elle part bientôt.
Mais elle nous a de laisser son vieux canapé, qui est super grand et super pratique. Il va très bien dans notre salon, donc on est très contente. Et bien sûr, le même jour, une de nos autres copines, qui va passer un an à Paris, devait se débarrasser de certains meubles et j'ai récupéré un super meuble. En gros, on vous le fait court, on a passé la semaine, enfin Marine a passé la semaine à ranger ma chambre.
Organiser sa chambre. Parce qu'à partir de là, il fallait changer les meubles de place, il fallait réorganiser sa chambre parce qu'elle était toujours dans un coin sombre et elle a besoin de lumière parce que sinon, c'est pas possible.
Sinon, la dépression...
Yel, lumière, ça va ensemble. Yel, elle est pas dark. Non. Donc,
si justement, elle est dark à l'intérieur, elle a besoin de lumière.
Donc, on a mis le lit devant la fenêtre.
Et tout ça, c'était une putain de révolution.
Ouais. Et c'est super. Et il y a encore des finitions à faire, d'ailleurs.
Oui, et puis surtout, j'ai une copine. Pour l'instant, je dis pas ce qui elle est, parce qu'elle veut, elle veut peut-être pas dire à tout le monde qu'elle est à Berlin, mais je la dénoncerai peut-être dans le prochain podcast.
Soir, il faut qu'elle finisse sa chambre, elle n'a pas le choix, parce que sinon, elle ne pourra
c'est
pas
pour
mettre la
porte. C'est comme podcast. On vous dit tout ça parce que, en fait, c'est pas complètement anecdotique. Ce podcast, c'est sur nos trucs pop culturels, mais c'est aussi sur nous. C'est rigolo parce qu'à une époque, j'aurais presque eu honte. J'aurais trouvé ça rigolo, mais j'aurais eu un peu honte de dire que j'avais besoin de toi pour ranger ma chambre. Mais J'en parlais hier, justement, à un événement où on était, dont on va parler à la fin, de ce petit chapitre « On raconte notre life ». Et je disais à quel point j'avais pas du tout honte d'avoir besoin de toi pour plein de choses, parce que j'espérais que toi avais besoin de moi pour d'autres choses, et que c'est pas grave de pas... Il y a des choses, faut accepter qu'il y a des choses qu'on sait pas gérer tout seul et qu'on a besoin d'aide. Et moi, j'ai du mal à me projeter dans le temps, j'ai du mal à me projeter dans l'espace, et donc automatiquement, organiser un lieu de vie, c'est compliqué pour moi. Je peux le faire, mais je me fais violence. Et quelque part, je pouvais le faire quand je vivais avec d'autres gens. Toi, il y a l'idée de pour quelqu'un d'autre, pour le bien-être. Tu sais, c'est comme quand je fais les décorations de Noël, quand je m'occupe du sapin, quand je fais le calendrier de l'Avent. Je le fais parce que vous êtes là. Je le fais pour ma famille. Mais pour moi, ma chambre, c'est pas possible. Et je suis heureuse d'être arrivée à un point, je vais avoir 37 ans, où je peux admettre que j'ai des choses que je sais pas faire, que j'ose pas faire, que je veux pas faire, et que, heureusement, ma meilleure amie est là pour m'aider à les faire. Donc voilà, c'était le petit chapitre sentimental, life coaching, ce que vous voulez, développement personnel. Et donc du coup, on a passé la semaine à écouter la musique que j'avais mise sur les compiles.
Mm-hmm, tout à fait.
Je tiens à dire aussi qu'une raison pour laquelle elle a rangé des trucs sans moi, c'est parce que fait que je termine le cadeau de Thibaut, qui en plus de la compile était, je lui ai tricoté une pégacorne, ce qui est le croisement entre un pégase et une licorne. Et
qui ressemble, vous verrez une photo, je pense. Et vous vous ferez votre propre idée dessus.
D'accord. Donc, parce que Marine
et commente. Et vous mettrez des comments pour savoir à quoi ça vous fait penser.
Marine a une théorie sur la réelle identité de Célia. Elle s'appelle Célia.
Ah, Célia.
Thibault l'a appelée Célia.
Célia.
Vous allez voir, moi je la trouve... En tout cas, elle est funky et elle est drôle. Elle est clairement divertissante. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette semaine qui soit pas pop culturel, qui soit intéressant à raconter de notre life? Pas grand-chose.
J'ai pas beaucoup travaillé non plus. Je suis allée qu'une fois au boulot.
On pourrait parler de la bouffe qu'on a préparée pour l'anniversaire de Thibaut. Je n'ai pas beaucoup sorti manger. Par contre, Marine, elle a une recette de houmous à la betterave.
Oui, qui est très bonne.
Qui est très bonne. Et du coup, on va vous la mettre. Elle l'a fait pour la fête. On va vous la mettre sur le site. Moi, j'ai fait une tarte amandine pomme qui était pas mal du tout non plus. Bon, Thibaut, le pâtissier, bien sûr, a fait un bavarois aux fruits exotiques. J'ai
pas compris si c'était fruits exotiques ou citron. Je sais pas. C'est pas citron, mais c'était bon.
C'était très bon.
Il n'y avait plus.
Oui, c'est ça.
Tout le monde se jetait dessus.
Ouais. Voilà, ça c'était les aventures culinaires de la semaine, jusqu'à ce que hier, comme on l'avait promis dans le podcast précédent, on se bouge les fesses.
Oui, on se bouge les fesses, effectivement, parce qu'on n'avait surtout pas le choix vu qu'on vous l'avait dit, donc on aurait eu l'air un petit peu bête.
Bon, après, j'ai toutes ces occupations, plus un problème sur le site les trois derniers jours, ont fait que le podcast n'avait pas été techniquement mis en ligne, donc on aurait pu tricher.
Parce que c'était hier, l'événement justement dont on va parler, et le podcast a été posté... Ce matin. Donc, les gens de Berlin qui écoutent notre podcast, vous êtes tellement nombreux que vous ne pouvez pas être au courant. Mais bon, en tout cas, on est allé
hier.
Oui, mais
j'aurais pu couper le truc et faire semblant qu'on était, oui. qu'on n'avait jamais parlé comme ça, même si on n'était pas allé.
Oui, mais c'est trop tard.
Mais c'est trop tard, on y allait. Et alors, donc ça s'appelle...
C'était Not Another Pop-Up.
Justement, parce que c'est pas un pop-up.
C'est pas un pop-up. Et justement, pendant. On a compris que finalement, on voyait des post-it posés sur la vitre, en fait. Et notre ami.
Précisons déjà ce que c'est, parce que la vitre, du coup. Donc en gros, c'est des potes qui pré-ouvrent un bar à vin.
C'est un pote, oui, qui ouvre. C'est un pré-opening pour un bar à vin naturel. Dans Neukölln.
Dans la Friedelstrasse.
Dans la Friedelstrasse, numéro 30, pratiquement au niveau du pont. Très sympa, un endroit très bien placé pour eux.
Attention,
surtout.
Parce que c'est une de ces rues de Berlin où c'est pas numéroté père impair, c'est numéroté.
Ça va de 1 à. D'un côté, 33, ça va de 1 à. Et ça recommence 35. De 34 et qui descend jusqu'à 55. Genre, tu fais genre. What?
Okay. Donc, une rue sur deux à Berlin est comme ça, ce qui est extrêmement perturbant.
La nôtre, c'est père impair.
Ah. Oui, mais celle de la côté, bon, celle de Marie, elle est.
Elle fait 3 km, mais bon, il faut juste savoir où vous allez. Donc, revenons à nos moutons.
Et donc l'événement, c'était un pré-opening, et effectivement, il y avait des post-it sur une vitre, et en fait, c'est des gens qui suggéraient des noms pour le bar.
Des noms pour le bar, parce qu'ils n'avaient pas de nom encore. Et ça ouvre en septembre. Genre, je pense vers mi-septembre. C'est pas encore très sûr, mais c'est ce que m'a dit. Parce que justement, quand on est arrivé. C'est un ami espagnol, en fait, que j'ai rencontré par le biais d'un autre ami espagnol, ancien collègue de travail, Roré, très sympathique.
Qui nous a promis d'écouter ce podcast.
Oui, alors qu'il ne parle pas français. Mais il est prêt, il a fait, oh, je comprendrai tout, c'est pas grave, ok.
Mais t'as de l'espagnol, il a plus de chance que d'un canal.
Oui, 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 oui. Il sait dire merci, il sait dire croissant. Et... Oui, oui. C'est vrai, tu as raison. Mais, non, non, donc on l'a rencontré, donc c'était très sympathique parce que ça nous a. On s'était dit, à chaque fois qu'on va à un événement, c'est. On prépare, on prévoit surtout des choses après, au cas où on s'ennuie, parce que c'est bien d'aller à un event, mais bon, ça peut être chiant.
Oui,
soyons honnêtes, et on s'est dit, bon, on va aller au cinéma. On a une séance à 20h30 ou à 22h30.
Comme ça, selon se fait chier.
Et finalement, on est allé à la séance de 22h30. Donc, c'était très sympathique. Vous savez qu'on est arrivé, Roré était là. Donc, on a commencé à papoter. Il était avec d'autres personnes.
Il était avec une amie qui s'appelle Esther, qui est néerlandaise. Ouais. Et donc, on a rencontré à ce moment-là. Et qui s'est avérée. Alors, j'ai une leçon de vie, donc suite du développement personnel. Au début, j'ai fait, parce que je parle trop, vu que j'ai une personnalité hyper imposante et tout, enfin, qui fait chier le monde, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai tendance à essayer, maintenant que je suis adulte, de rester un peu en retrait, de sourire, de faire du small talk, mais de pas tout de suite commencer à mettre mes gros sabots dans la conversation. Et du coup, j'ai tendance à tricoter aussi, pendant ce qui perturbe les gens, surtout quand c'est un event pop-up et tout.
Ça perturbe pas tellement, hein, parce que les gens, ils te regardent, je fais genre, oh, c'est oui, sympa en fait, les gens,
c'est une façon très différente de lier le contact
mais
par rapport
si
à ce que je faisais avant.
Le fait d'être à Berlin, les gens sont peut-être plus open. Est-ce que t'es à Paris?
Non, à Paris, dans le métro, dans le machin, mais même partout, les gens, ils me parlent, en fait, parce que je tricote.
Okay.
Surtout les vieilles dames, qui me disent toutes qu'elles savent pas tricoter et qu'elles sont très déçues.
Ouais, enfin, en même temps, à Berlin,
et tu sens le regard des vieilles dames qui sont là, ah, mais je croyais que c'était ringard de tricoter, donc j'ai jamais appris, et maintenant les jeunes, elles font ça.
Oui, mais en Allemagne, tu t'assois à côté de quelqu'un qui tricote.
Oui, c'est ça.
Et t'apprends à faire des chaussettes. Donc, oui, c'est un peu...
Hashtag autre... bonne.
Voilà, hashtag bonne. Et une autre histoire à raconter.
Et finalement, au bout de trois quarts d'heure, une heure, en fait, j'avais pas assez de laine. J'ai découvert que j'étais presque à la fin de ma pelote et que j'allais à un moment me trouver en rade. Mm-hmm. Et j'avais peur qu'on arrive en avance au cinéma et que j'ai envie de tricoter et que je puisse pas tricoter. Donc, j'arrête de tricoter. Du coup, je me retrouve à côté de cette Esther et je finis par lui dire « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Avec cette grande, ce grand truc que je fais, c'est que chaque fois que je pose cette question-là, je me dis « Merde, j'ai pas envie de réduire quelqu'un à son statut socio-économique. » Donc, du coup, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et je dis tout de suite après « Tu n'es pas obligé de répondre par ton job si tu n'aimes pas ton job. Tu peux parler d'autre chose, quelque chose qui te tient vraiment à cœur dans la vie. Et donc, elle me répond... bon, elle bosse à PayPal. Et donc, elle me répond un truc, machin. Puis tu sens qu'elle a des histoires, mais qu'elle ne va pas en parler. Moi, je suis là tout de suite. Oh, non, mais moi, je suis scénariste. Hein, raconte-moi tes histoires de boulot, ça m'intéresse. Et là, elle me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et ben, du coup, on s'est retrouvés à avoir une vraie conversation. Et je me suis dit, ah, être complètement en retrait dans le small talk, ce n'est pas non plus une bonne solution. Il faut créer du lien, il faut connecter avec les gens. Mais pour ça, effectivement, ma leçon, c'est pas tu fonces dans le tas en disant « Ah, mais vous trouvez pas que blablabla comme je faisais avant ?» C'est vraiment cette blague de tu poses une question aux autres, même s'ils vont te faire généralement une réponse lapidaire et retourner la question contre toi et tu te retrouves à toi parler, ce qui a fini par être le cas. Mais malgré tout, la connexion est plus saine que quand tu commences
à parler.
Oui,
surtout qu'après, elle parle.
Oui, parce que du coup, effectivement, elle a commencé à me raconter après des trucs personnels. Et puis, elle s'avère être vraiment, vraiment intéressante et on a des choses très proches. Donc voilà, développement, suite du développement personnel. Faut pas refuser d'engager la conversation. Mais par contre, faut essayer de le faire d'une certaine façon pour que l'autre se sente écouté avant de vous donner la parole. Donc ça, c'est pour tous les bavards. Et pour vous autres pas bavards, oui, ce que vous avez à dire est intéressant. Les gens qui parlent pas beaucoup, généralement, j'ai réalisé que c'est parce qu'ils sont persuadés que ce qu'ils ont à dire n'est pas intéressant et c'est pas vrai. Tous les gens ont des choses intéressantes à dire.
Mm-mm. Oui.
Et moi, quand je parle beaucoup, beaucoup, c'est souvent parce que j'ai pas envie de m'écouter, en fait. J'ai envie, un, de remplir le silence, deux, que les autres me répondent. Mm. Je me dis que si je me livre, ils vont se livrer aussi. Je donne mon opinion parce que je veux entendre celle des autres. Alors, je sais, ça paraît counter-intuitive, mais c'est vraiment le cas. Hein. Donc, sachez que tous les bavards ne sont pas que des égomaniaques. C'est aussi des gens qui ont envie de connexion et du coup, ils vous parlent pour que vous leur parlez. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Dès que le pop-up sera un vrai truc, on en reparlera. Surtout si on y retourne. Le vin était pas mal. T'as mangé. T'as bu un truc bubble brut qui était très bon.
Ouais.
Moi, j'ai bu un Montépilas et qui était pas mal du tout. Et ils avaient des tortillas des patatas qui étaient hyper bonnes.
Moi, j'en ai mangé deux.
Arrêtons de parler de notre life. Parlons série. Parce que quand même, on a trouvé le temps cette semaine de regarder une série. Chacune de notre côté, mais la même. Enfin, bon, pas exactement de la même façon. Toi, t'as décidé, je ne sais pas trop pourquoi, de te remettre à Arrow.
Pourquoi ? Parce que c'était là, c'est des choses qu'il fallait que je regarde et il suffit qu'un soir, tu sois enfin dans l'esprit de regarder ça. En fait, vu qu'on en a reparlé, on reparlait du DCverse, etc. Donc, c'était là. Donc, en fait, je me suis enfin plongée dedans.
Alors, et je précise, toi, c'est... tu regardes Supergirl, tu regardes Arrow, tu regardes pas les autres. Tu regardes
non,
The Flash,
je regarde pas les autres, Legends. Même si tu m'as poussé un peu plus... Je suis pas contente du tout parce que je ne veux pas, j'ai assez de trucs à regarder, j'en veux pas d'autres. Legends of Tomorrow, mais je sais pas si je vais m'y mettre. J'essaie d'oublier en fait ce que j'ai vu de Legends of Tomorrow.
Tu t'es, du coup, quand au début de la semaine, t'en étais avant le crossover de la fin de 2016.
Exactement, ouais. Oui, parce que tu m'as refilé les deux épisodes qui me manquaient, celui justement de Legends of Tomorrow et celui de The Flash. Et j'ai regardé ça et je t'ai maudit. Parce que c'est là justement que je me suis réalisé genre no. Et après j'ai continué et,
parce que donc, Supergirl, toi par contre t'avais tout vu.
Moi j'avais tout fini Supergirl, j'avais tout fini, mais en plus il y avait pas de, dans le crossover j'ai pas vu vraiment de choses avec Supergirl. Dans les épisodes qui suivent il y a pas Supergirl, enfin elle est dedans mais il y a rien qui se passe dans la série Supergirl.
Oui, non, c'est ça, ça n'a pas d'influence sur Supergirl.
Donc c'est pour ça que ça m'a pas...
Oui, non, la seule influence, c'est qu'à la fin, il lui donne le jouet.
Oui, le jouet, ouais.
Le truc qui va faire que dans les épisodes suivants de Supergirl, elle va pouvoir... ils vont pouvoir passer dans notre
dimension. Tu m'as pas vu qu'il crée toujours plein de trucs. Why not? Ils ont créé ça, pas de problème.
Et du coup, t'as terminé Arrow.
Et j'ai terminé Arrow vendredi.
Et donc moi... Je regarde les 4 et je les regarde dans l'ordre. Et j'étais bloquée, je venais de regarder l'épisode 15, j'étais avant l'épisode 16 de Arrow. Donc c'est-à-dire que j'avais 13 épisodes de Legends et 15-16 de Flash, Supergirl. Et en gros, j'étais juste avant, j'étais deux épisodes avant le crossover Supergirl-Flash avec l'épisode musical. Pour les gens qui sont fans. Et du coup, vu que t'en as parlé, j'ai fait « Ah !»
Parce qu'en fait, bien sûr, on a toujours tendance à aller voir combien d'épisodes... Genre, t'aimes pas un personnage de la série, tu te dis genre « Elle, je l'aime pas. Bon, elle reste dans combien d'épisodes ?» Et là, en regardant les acteurs, hop,
on s'est fait toutes les deux spoiler. Donc, attention au gros spoiler, on n'est pas obligé de dire en même temps, on s'est fait spoiler sur l'identité de Prometheus. Parce que le personnage, l'acteur, il avait écrit son nom et slash Prometheus.
Et on avait genre,
et c'était le méchant masqué depuis le début de la saison d'Arrow. Et du coup, on s'avait complètement spoilé l'une comme l'autre. Chacune de l'autre côté, chacune à notre façon. De la même façon, mais pas au même moment. Et donc, effectivement, Marine était là. Bon, je suis assez spoilée, je veux voir la suite. Moi, du coup, j'avais envie de le regarder. Alors, le problème, c'est que le DCverse, comme je regarde les 4, ça prend beaucoup de temps. Donc là, toujours est-il qu'hier soir, j'ai fini Legends, donc j'en suis arrivée au point où j'ai plus que 5 épisodes de Supergirl, de Flash, de Arrow, mais je suis dans l'ordre de la diffusion, et j'ai vu toute la saison de Legends, donc qui était de 17 épisodes. Je peux pas te dire qu'il faut la regarder.
Non, mais
franchement,
j'oublie,
c'est pas grave.
J'ai oublié.
Il y a des choses intéressantes et tout, mais ça vaut pas assez le coup.
N'en parlons pas. On parlera
de... Donc voilà, on voulait juste parler un tout petit peu de notre amour de Arrow, sachant que moi, je ne suis qu'à l'épisode 18. Donc j'ai pas vu les 5 derniers, donc il n'est pas question que tu me spoiles. Je pense que c'est plus... Alors, je voudrais parler de notre amour de Arrow parce que je considère que c'est vraiment une série qui n'a pas du tout assez de renom, à qui on ne donne pas assez de crédit. Et on... Notamment sur la qualité de son écriture et la qualité de la psychologie de ses personnages.
Tout à fait.
Les gens parlent du fait que des fois c'est fun, et c'est fun aussi, vraiment, il y a vraiment un côté où tous les personnages sont smart, et du coup, il y a souvent des répliques, notamment le moment où tu te rappelles quand il commence à draguer sa meuf de la saison 5, là, qu'on n'aime pas, Suzanne, Oliver, et qui dit « oui, je vais peut-être la voir et tout », et qu'il y a Quentin et Ramirez, le nouveau, qui sont là, oh, non, et Thea, et Thea qui sont tous, c'est Thea et Quentin qui sont là. Qui critique le fait qu'il est en train de draguer une journaliste et je sais plus qu'elle le fait. Oh wow. Et j'ai trouvé ça tellement génial parce que il y a quelque chose de, c'est presque Friends en fait, leur façon de jeter des vannes avec affection et de rigoler des défauts des uns des autres. On est presque dans de la sitcom dans ces quelques phrases. Et ça, je trouve ça quand même assez agréable, hein, sachant qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de trucs assez terribles qui se passent et psychologiquement très lourds.
Ouais, pour chacun.
Ouais.
Les personnages sont très bien traités, en fait. Il y a vraiment une évolution de tous les personnages, vu que dans cette saison, en fait, il y a... Enfin, ça va spoiler, pas vraiment, mais c'est... si vous avez pas vu Arrow, ça va vous spoiler un tout petit peu, mais c'est juste qu'il y a une création d'une nouvelle équipe, en fait. Je vous dis juste ça. Et en fait, tous les personnages, nouveaux personnages qui arrivent dans cette saison, il y a vraiment une évolution des personnages. Vraiment chacun, super, ouais. Super. Par exemple, j'ai oublié, c'est celui que t'appelles Ramirez, c'est Ramirez, c'est ouais. Celui avec le hockey mask.
Oui, il s'appelle Dog.
Dog, oui, Dog, oui, bien c'est ça, oui. Il,
Wild
il évolue,
Dog,
il évolue, je sais pas si t'en es déjà là, mais il évolue vachement. C'est super, c'est vraiment, franchement génial. Et puis, ils sont, côté justement psychologique, où ils donnent leur avis sur tout, en fait. Et tu te rends compte que c'est toujours...
hyper pertinent.
Ouais, tout à fait.
Et tu vois, mais en plus, ils donnent leur avis pas de la même façon selon leur personnalité.
Tout à fait. Et selon leur vécu, en plus.
Oui, c'est ça. C'est pas du tout échangeable. C'est vraiment.
Parce qu'ils ont tous eu des vies de merde.
C'est clair.
Sur plein de points différents.
C'est pour ça qu'ils ont tous besoin d'une famille. C'est pour ça que. Et puis il y a vraiment un truc sur la famille.
Et puis il y a vraiment. On en a parlé un tout petit peu, mais il y a vraiment une égalité par rapport au personnage qui évolue. Par exemple, Felicity, qui prend vraiment un niveau de. C'est leader, en fait.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est les gens l'écoutent, ou elle est...
Puis elle a pas peur de donner des
décisions, et puis elle dit merde, quoi. Genre, en gros,
Oliver n'est pas là, et donc on fait ça, et on fait...
Et les gens l'écoutent.
Oui, c'est ça. Et en fait, il y a un truc que je trouve, donc, parlant un peu de mon sujet préféré, qui est...
Holicity.
Le mot que déteste Léa. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à regarder cette saison, parce que Oliver et Felicity sont pas ensemble, et je trouve ça terrible. Et voilà, les cloches ressonnent, putain. Et j'ai alors déjà, ce que j'apprécie, c'est que la saison traite de la relation très très bien. Ils ont chacun leur évolution qui est nécessaire, mais ça traite aussi du fait. Enfin, je trouve que à aucun moment, moi, ce que je déteste dans une série, quand des personnages que t'attends depuis longtemps qui se mettent ensemble, et après ils se séparent, et tout le monde fait comme si de rien n'était.
Oui.
Comme si, hein, quoi ? Ah bah oui, c'est vrai que je couchais avec toi à une époque, mais maintenant j'ai oublié, ça m'énerve. Je trouve qu'à aucun moment tu ressens ça, au contraire, tu ressens le poids... Arrête de sourire, Marine, je sais que t'as vu tous les épisodes. Tu ressens le poids de la peine que ça représente, surtout pour lui, parce que de toute façon, depuis le départ, je trouve que ce qui est génial, c'est que tu pars du principe qu'elle est amoureuse de lui, qu'il lui plaît, qu'elle le trouve beau et tout, mais ce qui est génial, c'est que lui... démontre parfaitement ses sentiments depuis le début et l'importance qu'il lui accorde depuis le début de la série, et que c'est grâce à Stephen Amell qui le joue parfaitement bien, même sans aucun mot, juste par des regards, tout le temps, des micro-expressions, la façon dont il sourit infiniment dès qu'elle dit quelque chose, c'est
oui,
impressionnant.
Il pose, genre...
oui, il prend son temps pour chercher ses mots, c'est toujours génial. Et donc je trouve que tu le ressens vachement dans cette saison, à quel point, notamment, il essaie tout le temps de créer un espace de liberté pour elle, à la fois quand il a besoin de lui demander quelque chose et à la fois quand il s'inquiète pour elle, parce que tu sens qu'il est en train de ménager tout ce qui peut d'espace pour qu'elle reste, parce qu'en gros, quel que soit, il est prêt à négocier tous les termes de leur relation, ce qui compte c'est qu'elle soit dans sa vie et qu'elle soit dans sa mission. Et donc du coup, il est prêt, enfin, notamment le moment où elle disparaît pendant 24 heures et quand elle revient, elle est désolée, il lui dit non mais attends, tu travailles pas pour moi. Si je m'inquiète juste pour toi, j'ai envie que tu me dises ce qui se passe dans ta vie, et je comprends que t'as peut-être pas envie de le dire à quelqu'un, t'as peut-être pas envie de me le dire à moi, mais on sait tous les deux que garder des secrets, c'est pas super sain. Et elle dit, c'est pas le moment, fais-moi juste confiance, et t'es là, oh, ils ont une relation tellement saine. Et donc un des trucs que j'aime, c'est ça, et l'autre truc que j'aime, c'est qu'en réalité, cette séparation, donc le fait qu'ils aient été ensemble et qu'ils soient plus ensemble, a vraiment créé effectivement une égalité hyper importante entre deux par rapport à la team, par rapport à l'histoire. Et c'est une égalité qui est très belle parce que elle n'est pas du tout conditionnelle au fait que ce soit sa meuf.
Oui, c'est vrai.
Il y a l'idée, tu vois, que son statut a été élevé, puis à un moment, c'est devenu sa meuf, et quelque part, c'était sa... Enfin, bon, après, c'était aussi sa financière, parce qu'elle finançait sa campagne, puisqu'elle était censée être hyper riche. Je pense qu'elle est toujours riche, en fait. C'est-à-dire, elle bosse plus, enfin, whatever. Je pense qu'elle est riche, en fait, tout simplement. Qu'ils lui ont racheté, ils ont pris le contrôle de la boîte, mais c'est sa boîte.
Je pense qu'elle est riche, quoi.
Elle chamille plus chez Sandro.
Si, si, toujours.
Marine,
je connais plus la nouvelle saison, donc...
Mais ça ressemble à Sandro. Marine a bossé pour Sandro et donc du coup elle avait tendance à tout le temps reconnaître les fringues de Felicity et de plein d'autres, Chelsea Peretti aussi dans Brooklyn Nine-Nine. Bon, passons. Et je trouve que ce truc de ce pied d'égalité, effectivement, le côté où même la nouvelle équipe les appelle à un moment pour, où ils s'engueulent, ils font la blague sur le fait que maman et papa sont en train de s'engueuler. Il y a quelque chose d'hyper beau dans cette... à la fois dans le respect qu'il lui porte et dans la façon dont elle a pris complètement en charge ce rôle-là, quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait au début. Et d'ailleurs, tu vois, dans un épisode de l'avant-dernier épisode de Legends, ils sont dans une réalité alternative, parce que les Legend of Doom, qui est Marvin, non, c'est quoi son nom, Melvin, le méchant de Arrow, le père de Thea.
Merlin.
Il y a Merlin, il y a Damien Dark et le méchant speedster qui se faisait passer pour Wells dans la première saison de Flash, qui voyage dans le temps pour essayer de récupérer un truc qui peut changer la réalité. Et donc il change la réalité. Et dans cette réalité, Damien Dark, il a tué tous les super héros. Et la dernière à se faire tuer, c'est Felicity. En fait, il court après une nana dans des trucs et tout, et en fait, c'est Felicity qui est devenue une super-héroïne et qui se fait tuer du coup dans le début de l'épisode. Mais il y a l'idée que quand ils se sont tous fait tuer, elle est devenue une super-héroïne. Et j'étais là, oh. Et ça en dit long sur le fait que son implication n'est pas liée à Arrow. J'adore le fait qu'il respecte le fait qu'elle voulait plus être avec lui, et j'adore le fait qu'elle veut pas être avec. Enfin, que c'est pas parce qu'elle était avec lui ou parce qu'elle l'aime qu'elle fait le chemin qu'elle fait en tant que vigilante. Mm-hmm. Et franchement, je trouve que c'est hyper bien traité. Et je me suis posé une petite question à un moment dans l'épisode 17, qui est un épisode qui est entièrement consacré à la torture d'Oliver. Donc attention, à nouveau spoiler. À la fin de l'épisode, il est là, ouais, faut que j'arrête ce boulot parce que tous les gens qui s'approchent de moi vont mourir, machin et tout. Qui est un truc que j'ai l'impression, je dis, mais on l'a déjà traité ça. C'est pour ça, dans la saison 3, qu'il ne voulait pas être avec Felicity. Mm-hmm. Et d'un coup, j'ai réalisé, ah mais non, il disait que s'il était amoureux d'elle, s'il était Oliver, il ne pouvait pas être Arrow, et donc il ne pouvait pas être le justicier qu'il avait besoin d'être. Donc c'était par pureté, désir de pureté. Mm-hmm. Alors que là, c'est parce qu'il pense qu'il est corrompu jusqu'à la moelle, que du coup, il ne doit pas entraîner les gens vers sa corruption. Et c'était pas l'idée de forcer les gens dans sa mission, là c'est le contraire. Du coup j'ai fait ok, ça va, psychanalytiquement parlant, ça a du sens qu'il arrive à cette étape là du problème, qui est ah en fait je suis pourrie à l'intérieur.
Et t'as pas vu après?
Non.
C'est là où tu t'es arrêtée?
Je me suis arrêtée, ah oui, non je me suis arrêtée à l'épisode d'après où justement il redevient une équipe. Oui, réaccepte.
Ou comment il s'appelle
Dig.
Dig qui lui dit que de toute façon.
Qui lui gueule dessus, genre, mais mon gars.
Tu peux faire n'importe quoi, de toute façon, je serai toujours là, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est bon, quoi.
Je connais le pire de toi-même.
C'est bon.
Tu peux pas me faire peur. Je sais exactement à quel point t'es horrible. Je sais exactement comment t'es. Mais je vais quand même être là. Donc, tu veux que je me barre? Mais ça sert à quoi? Vu que je serai quand même là après. Et ça, c'était hyper fort. C'était hyper fort. J'ai bien aimé aussi que quand il revoit Felicity après, ça te fait le premier truc quand il leur dit de partir, quand il la voit. Il peut pas la regarder. Il regarde les autres, mais lui, il peut pas la regarder. Because he loves her so much. Pardon. On va arrêter de parler. Mais tout ça pour dire que cette série mérite, même si vous avez pas, enfin, même si les gens ne la regardent pas, c'est pas leur trip, et tu vois, comme moi, je suis en retard de 2 saisons sur Game of Thrones et tout, mais je peux respecter l'intelligence et ce que ça fait. Et Arrow, je trouve que ça pose des véritables questions. Plus que toutes les autres séries du DC-verse, d'ailleurs, enfin, Supergirl un peu le fait aussi, sur la responsabilité de l'activisme, sur la responsabilité du rapport à la violence, sur comment tu agis sur le monde. C'est vraiment des questions, des questions qui m'intéressent depuis Buffy, quoi. Que je trouve que peu de séries à part Buffy posent, et je trouve que là, les conséquences psychologiques, émotionnelles, relationnelles de cette vie, c'est vraiment fort. Et je trouve qu'il y a clairement une volonté de la part des auteurs de ces séries de parler de l'humain. Et d'ailleurs, dans Supergirl, j'en suis arrivée au point où t'as... j'ai oublié son nom. Alex, la meuf d'Alex, Maggie, croise une ex. Mm-hmm. Et en fait, tu découvres qu'elle l'a trompée. C'est pour ça que... Enfin, Maggie a trompé l'ex. C'est pour ça que l'ex s'est barrée. Et quand Alex découvre la vérité... Donc au début, elle croit que c'est l'ex qui était la méchante. Puis elle découvre la vérité. Et sa réaction, c'est de dire à sa meuf... En fait, je crois que tu me l'as pas dit parce que t'as peur. Et je veux pas que t'aies peur de moi. Mm-hmm. Parce que je suis pas là pour te juger, je suis là pour t'aider à te soigner et à t'accepter. Et j'étais là.
Ouais, ouais. C'est bien fait.
Parce que c'est tellement juste cette idée que elle dit ton passé, c'est ton passé. Et là, tu vois que... Je ne sais pas s'ils vont tous chez le psy, les gens qui bossent avec Berlanti. Clairement, Berlanti a fait sa psychanalyse, ça c'est sûr et certain. Et du coup, c'est hyper positif, c'est hyper humain, hyper beau. Et ça fait longtemps que je le pense. Et je trouve que Flash est un petit peu plus sur la surface, même s'il y a quand même des choses très belles, notamment en termes de métier entre hommes et femmes, que je trouve vraiment agréable dans The Flash. Comme je disais, des fois, je mets des bouquins dans les toilettes pour tomber dessus par hasard.
Il n'y a plus, là.
Oui, d'ailleurs, oui, parce que j'ai pas arrêté de les sortir. Il faut que j'en remette. Mais si, il y a la mythologie.
Oui, c'est bon, on la connaît, la mythologie. J'ai le même bouquin.
J'ai un petit bouquin que j'ai acheté de George Orwell qui est un recueil de petits textes dont le premier s'appelle Why I Write, pourquoi j'écris. Et c'est quelque chose que j'ai acheté il y a quelques années, que j'ai lu juste en arrivant à Berlin, je me rappelle. Et là, j'ai pas arrêté de le relire, de relire des petits bouts. Et en fait, j'ai même Instagrammé la première page, qui est assez géniale, hein, que je remettrai en ligne. Et en gros, c'est George Orwell qui se pose la question. Je pense que c'est après la guerre d'Espagne, donc il doit avoir, il est en 1903, donc il doit avoir un peu plus, doit avoir dans les 35 ans. Il est mort à 47 en 1950. Il a quasiment vécu vraiment à 30 ans. Et c'est un truc sur pourquoi il écrit, pourquoi il s'est mis à écrire, le fait qu'il écrivait pas quand il était petit, et du coup il a pensé qu'il était pas censé écrire jusqu'à 24 ans, alors que dans sa tête il a toujours rêvé d'écrire des livres. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et il pose la question de pourquoi les gens écrivent, et il a une réponse, et sa réponse c'est... il donne quatre raisons, et il dit que c'est à degrés différents. La première, c'est de l'égoïsme pur, de l'égoïsme, c'est-à-dire vraiment on a envie de flatter son égo, c'est par une raison de désir d'égo. Il y a l'enthousiasme esthétique pour la beauté des mots et la beauté des sons. Il y a d'être poussé par l'histoire, c'est-à-dire qu'on vit dans une période qui fait qu'on est obligé d'en parler et d'écrire dessus. Et enfin, il y a le political purpose, l'intention politique. Et pour moi, dans Arrow, et dans toutes ces séries-là, et toutes les séries que j'aime, il y a une intention politique. À la fin de l'essai, George Orwell dit que chaque fois qu'il a écrit sans intention politique, qu'il se rend compte qu'avec le recul, c'est quand il a écrit sans désir politique que c'était les choses les plus intéressantes. Et je vais vous lire juste ce passage parce que c'est magnifique. Je le traduirai en vrai sur le post. Good prose is like a window pane. I cannot say with certainty which of my motives are the strongest, but I know which of them deserve to be followed. And looking back through my work, I see that it is invariably where I lacked a political purpose that I wrote lifeless books and was betrayed into purple passages, sentences without meaning, decorative adjectives, and humbug generally. Et je pense que c'est la parfaite transition pour parler des films qu'on a vus cette semaine. Donc George Orwell, moi j'ai lu que 1984, que j'adore. Un essai qu'il écrit sur Charles Dickens qui m'a marqué à vie, et ce petit bouquin d'essai. Mais chaque fois que je le lis, je me dis, il faut que je lise plus parce que ce type, il résonne en moi. Alors j'espère que je ne vais pas découvrir que c'était un horrible misogyne, c'est probablement le cas en même temps au début du XXe siècle, qu'est-ce que tu veux. Mais en tout cas, il avait ce désir de l'engagement et il avait cet vraiment intérêt humaniste dans sa façon d'écrire et de la façon de réfléchir sur le monde et la littérature. Donc voilà, ça me fait penser au film qu'on a vu cette semaine qui ne reflète absolument pas l'ambition de George Orwell. Donc voilà, le chapitre cinéma s'ouvre avec...
The Dark Tower.
The Dark Tower, qu'on a regardé, on allait voir au cinéma jeudi soir. Donc ça s'appelle La Tour Sombre en français, sorti le 9 août chez vous. Chez nous, c'est sorti au même moment, je crois. Non, mais non, c'est sorti le jour.
C'est sorti le 10.
C'est sorti le 10, oui, parce que les
films... C'est l'anniversaire de Thibaut, voilà. C'était pour finir la journée qui n'avait pas été très productive parce qu'on avait fait son anniversaire la veille. J'ai proposé d'aller au cinéma et on voulait aller voir ce film.
Au Cinéplex.
Au Cinéplex, toujours, qui est le donc cinéma maudit de Neukölln.
Donc la malédiction continue.
Les versions
continue.
Originales, sans sous-titres. Et en y allant, on est déjà négatif sur le fait qu'on allait voir un mauvais film, parce que c'était le Cinéplex. Donc c'était assez négatif.
Donc c'est un film avec Idris Elba, Matthew McConaughey et un gamin qui a joué dans, en fait, rien du tout que je connaissais.
Ouais, ouais.
Il a juste une tête qui me disait quelque chose.
Et le film
c'est tiré d'un bouquin de Stephen King.
Oui, de Stephen King, ouais, dont on n'avait jamais entendu parler, parce que on comprend mieux pourquoi, quand on a vu le film.
Donc, t'as pensé quoi du film?
C'est une merde. C'est pas, non, c'est franchement pas génialissime du tout. Je vais pas essayer d'être positive sur le film comme à chaque fois. Si, le truc positif, c'est qu'il y a Idriss Elba quand même, qui est quand même, on l'aime quoi. Il est beau et puis je reste sur le fait qu'il ce serait un excellent James Bond. Il serait super en James Bond.
Tout a passé le film à
imaginer. Bah, il était très. C'était super. Enfin, il bougeait beaucoup avec ses flingues, etc. Donc je me suis dit genre, oh, ça, bon James Bond. Ouais. Je le trouve fit pour James Bond, tu vois. Mais il y a Matthew McConaughey dedans qui. Je ne sais même pas comment. C'est Matthew McConaughey. Enlève. Je veux dire. Il est genre, ils lui ont teint les cheveux en noir pour qu'il ait l'air plus
méchant.
Méchant, genre qui ressemble à un sorcier dark, genre le sorcier sombre qui a les cheveux noirs. Et puis tout en noir, genre à la Matrix. Ridicule.
Moi, ce que j'adorais, c'est quand il jetait les balles. Tu sais, là tu lui tirais dessus et il les jetait comme des cartes à jouer.
C'est vrai, parce que c'est un magicien, un sorcier. Non mais c'est ridicule. Il y a et puis non. Il y a j'ai pas grand-chose à dire dessus en fait.
C'est assez impressionnant quand tu regardes un film comme ça, bon, et que tu te plonges dans ton tricot pour 30 minutes, ce que faut.
Heureusement qu'elle avait gardé du tricot d'ailleurs, parce que sinon elle aurait été mal.
Bah oui, mais c'était pas la grille manquante de la c'était pour The Party
ah oui.
Qui manquait.
Ah oui, non, oui.
Bah, on spoiler. On a vu ça ce soir. C'était pas la semaine dernière. Hein. Et du coup, je me replonge mon tricot. Je fais une erreur de tricot et je me dis merde, j'essaie de la réparer à la lumière de l'écran. C'était difficile. Du coup, j'ai redétricoté tout un rang juste pour les pas parce que j'ai réfléchi. J'ai dit là, je me suis dit, si je m'arrête de tricoter maintenant, je vais avancer moins que si je prends le temps de détricoter un rang, le retricoter et avancer. Vu comment le film a l'air de me faire chier. C'est assez impressionnant à quel point ce film n'a pas de sens. C'est pour ça que le truc est vraiment l'un après l'autre. Il n'y a aucune intention narrative claire. Ils parlent tout le temps de trucs, sauf qu'ils n'en parlent jamais vraiment. Le Dark Tower, on n'en parle jamais vraiment. Les enfants qui sont dans la communauté, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Tu sais, les rêves, ils font des rêves.
On ne sait pas ce que ça fait, le fait de détruire la Dark Tower. C'est, non, genre, c'est quoi puis, ça libère le mal sur le monde entier
en alors, fait, les démons de l'extérieur qui rentrent, mais c'est
genre...
hyper vague. Tu n'as rien de relatable. Tu n'as rien qui touche. Tu n'as rien où tu peux t'identifier. Je trouve qu'il tue les personnages féminins de façon un peu rapide. Et puis surtout, ça n'a aucun sens, ni émotionnel, ni quoi que ce soit. Et t'es là et tu dis, mais ça a coûté combien de fric de faire ce truc-là ? Il y a combien de gens qui ont bossé là-dessus ? Bon, les gens qui ont bossé là-dessus, là, je suis contente parce que du coup, ils ont été payés. Mais combien de films n'ont pas été produits à cause de ce truc-là ? Combien de trucs n'ont pas été faits ? Alors, j'espère que c'est le contraire, que ça a apporté des recettes et que ça fait bosser des acteurs et des artistes qui peuvent du coup concentrer leur temps sur des projets plus viables. Mais par rapport à Arrow, par rapport à l'intensité et l'intelligence de Arrow, et tu l'as. How? Donc voilà, donc c'était The Dark Tower. Et c'était juste. J'ai perdu. J'avais plein d'arguments quand je suis sortie du film, mais j'ai tout perdu. Ça a tout disparu de mon cerveau parce que maintenant, il me reste juste un énorme blob.
Mais je pense que ça mérite même pas de.
Qu'on passe du temps
à. Non.
20. Très 20. Faut complètement.
Qu'on passe au deuxième.
Donc ensuite. The Party.
De Sally Potter.
De Sally Potter.
On s'était dit, un film fait par une nana.
Yeah.
Écrit et réalisé par une nana. Donc,
yeah.
On s'est dit, j'aurais super. Eh ben non.
Alors du coup, la blague,
no.
C'est que du coup, on y est allé à 22h30, donc hier soir, après le pop-up. Bon, heureusement, on avait bu plusieurs verres de vin, parce que t'imagines.
Ah, je l'ai senti, ouais. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de survivre pendant le film.
Alors, on avait vu plein de fois la bande-annonce. On a une amie qui était à la Berlinale qui nous en avait parlé, mais on avait... Enfin, moi, j'avais complètement oublié. Et Marine se souvenait juste qu'elle voulait le voir. Elle avait oublié le retour de scène. Et alors, donc c'est un film en noir et blanc qui se passe à un huis clos, qui se passe pendant une soirée, a party, qui en fait... Mais moi, je pensais que ça allait parler du parti politique aussi, parce que dans la bande-annonce, on en parlait. Mais on savait que plein d'acteurs géniaux. Il y a Christine Scott Thomas, il y a Bruno Gantz, il y a Emily Mortimer, il y a... Patricia Clarkson, Cillian Murphy, et il y a encore deux autres personnes qui y a le
Emily Mortimer.
Oui. Ouais, le mec qui joue, enfin les Martha et Bill, c'est aussi des grands acteurs, sauf que je connais pas leur nom par cœur.
Oui, Martha, oui, elle joue dans Transparent aussi. J'ai oublié comment elle s'appelle.
Et Et il y a rien à dire, non? Bah si, non, mais déjà c'est absurde.
Le film, ça dure 1h11.
Non, c'est ça qui est drôle, c'est que à un moment je me fais chier et je me dis, est-ce que je sors mon tricot? Je me dis, visuellement, le truc le plus intéressant du film, c'est en noir et blanc, c'est assez joliment filmé. Donc ce qui est plus intéressant, c'est l'image. Donc c'est un peu dommage, mais je me dis, bon.
Vu qu'il te restait du tricot cette fois-ci, voilà. C'était là.
Ben non, justement, c'est là que j'avais plus beaucoup de laine. Oui. C'est pour ça que j'avais arrêté de tricoter pendant le pop-up, qui n'était pas un pop-up. Du coup, je me dis, bon, si je commence à tricoter tout de suite, il faut que je regarde l'heure d'abord. Le film commençait à 22h30. Je regarde l'heure, je vois qu'il est 23h10. Je me dis, ah, problème, parce que là, j'en ai au moins pour encore 50 minutes de film. Si je commence à tricoter maintenant, je vais finir ma pelote. Je dis, faut que je tienne. Allez, je tiens jusqu'à 23h30. Je regarde ma montre une fois, 22h19. Une deuxième fois, 22h22. Ah! Bon, allez, tant pis, je commence. Donc, je tricote tranquillement. Et là, tout d'un coup, le film s'arrête. Et j'étais là, ah bah merde. Et en fait, le film dure 1h11. Et on a quand même réussi à se faire chier comme des rats. Mais franchement, alors, en fait, on pensait que ce serait un truc intelligent. On pensait que ce serait un huis clos, que ce serait une joute verbale, qu'il y aurait des révélations. Ce que tu comprenais de la bande-annonce, c'est que Christine Scottema avait été nommée à un poste de ministre et qu'au moment où elle faisait une petite célébration avec des amis proches, son mari annonçait quelque chose de... C'était pas très clair, mais apparemment, ça créait un traumatisme. J'ai envie de décrire le truc, et en même temps, ça sert à rien. Disons juste que tout s'effondre dans ce film. C'est-à-dire que si tu réfléchis 2 secondes à n'importe quel sujet de conversation qu'ils ont, en fait, tu réalises que ça n'a pas de sens, qu'ils poussent jamais le truc au fond. Il y a, à la limite, le personnage de Patricia Clarkson est celle qui a le plus de sens, qui dit le plus de choses intéressantes. Et Gottfried, il dit vraiment des trucs intéressants pendant tout le film. Sauf qu'ils jouent tous les deux. Ben, Bruno Gantz joue parfaitement bien, mais Patricia Clarkson, elle joue tellement bizarrement, ce qui est souvent le cas, mais que du coup, ça discrédite tout ce qu'elle dit, en fait. C'est comme si son ton de voix dénaturait ses propos.
Et parce qu'il n'y avait aucune liaison par rapport à n'importe quelle conversation. C'était, chaque conversation commençait, mais tu te demandais pourquoi ça commençait. Parce qu'il n'y avait finalement pas de début, enfin, pas de raison qui parle de ça. Ça ne se finissait pas, donc tu n'avais pas de conclusion à la phrase. Tu en as deux, tu as un couple de lesbiennes, elles s'engueulent.
Sans raison.
Tu ne sais pas pourquoi. L'autre, elle lui fait la gueule, elle veut la quitter. Tu sais pas ce qu'elle a dit, qu'elle a dit un truc, tu fais genre, mais.
Quand
elle a rien dit, elle a rien dit du truc, elle parle. Tu fais genre, mais d'où vous avez dû oublier la moitié du film? Ils ont dû couper tous les morceaux qui manquent pour que la conversation donne sens.
C'est exactement ça, je pense que t'as raison.
Parce que c'est. Même, tu vois, genre, aller dans la cuisine, les gens viennent, etc. Tu comprends rien. Je veux dire, c'est vraiment...
Alors que quand t'es dans un seul lieu avec...
Surtout, c'est un huis clos, quoi, je veux dire. Et puis, il y a Murphy. Je veux dire, j'adore Cillian Murphy, parce qu'il est très agréable à regarder. Je l'adore depuis des années. Dernièrement, franchement, il joue que dans des films qui me font chier, vu Dunkerque, là. Et là,
il est
son entrée en matière, et il est insupportable, t'as juste envie de genre, mais...
Arrête de
Kill
nous
yourself.
Faire. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça.
Il a flingue et tu te dis, je vais dire, mais pourquoi tu balances? Mais tue-toi, quoi. Genre comme ça, t'es. Hop, et ça aurait donné peut-être un.
Une impulsion
et un truc genre. Wouh!
Moi, ce que j'espérais, c'est parce qu'il avait l'air complètement. D'aller pas bien du tout au début quand il arrive. J'espérais qu'il venait d'assassiner sa femme. C'est pour ça que c'est ça le secret. Mais en fait, voilà.
Ouais, donc, il se prend des rails de coke, il se machin. Pour améliorer le tout, genre, je vais me calmer, je vais me prendre 2 rails de coke. Non. Non, mec, non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Mais prends un Xanax plutôt.
Non, mais.
Donc voilà, grosse déception ce film. Un peu n'importe quoi, grosse déception. Et il me semble que Pam nous avait dit que c'était pas la première fois qu'on l'adaptait ce truc-là. Mais en même temps, il y a écrit et réalisé par Sally Potter, donc c'est pas Potter, donc c'est pas une adaptation.
Ouais, mais en tout cas,
c'est peut-être le truc avec sortant... Richard Gere qui était une adaptation. Je sais plus.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de dîners en ce moment. C'est vrai, il y a plein de films sur les dîners. Mais c'est vrai qu'en sortant du cinéma, je t'ai dit « Ah, mais oui
!» C'était le truc que Pam avait trouvé ça chiant.
En fait, fait, non, je me souviens pas exactement de ce qu'elle a dit, mais c'était assez négatif. Je comprends maintenant. Le souvenir me revient, j'ai un éclair.
C'est clair. Donc voilà, c'était très étrange, très bizarre, très machin, et je me suis dit, ah, mais... Et en fait, au début du pop-up, je me disais, je devrais être en train de regarder la suite de mon épisode de Supergirl, puis finalement, j'ai passé une super soirée. Et là, par contre, pour un film, j'étais là, je devrais pas regarder Supergirl. Du coup, je suis rentrée, j'ai fini l'épisode de Supergirl et les deux épisodes de dernier de Legends. On va passer au dernier chapitre de notre semaine berlinoise. On voudrait parler de politique un peu, de ce que... Bon, après, moi, je pense que Marine est d'accord. Tout est politique, donc la vie est politique. Mais il y a deux, trois sujets particulièrement sensibles qui tournent dans le monde et sur Internet cette semaine. Et je trouve ça particulièrement regrettable qu'un film comme The Party, qui a l'air de vendre une discussion intelligente sur le féminisme, sur la place des femmes en politique, sur leur rapport avec leur vie personnelle, bien qu'au final, c'est un couple où t'as un mec qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa carrière, selon eux. Alors en plus, sacrifier sa carrière, tu vois, c'est pas très clair.
Warner,
tout sacrifié, Yale. Tout sacrifié. Il a refusé un poste, mais c'est pas très clair. Tu vois, ils ont l'air de trouver ça absolument miraculeux qu'il l'ait soutenu toute sa vie, alors qu'elle, elle avait un désir politique et un désir d'action politique et de gouvernemental fort. Tu vois, comme si c'était un miracle. Excuse-moi, mais ça arrive tous les jours. Dans l'autre sens, et qu'au final, bingo, en fait, il la trompe et il veut la quitter parce qu'elle lui donne pas assez d'attention, quoi. Donc, t'es là, merci, merci du message, yay! Et je trouve ça particulièrement problématique parce que le féminisme est un truc, j'ai l'impression, qui est tout le temps en danger. C'est une action, un engagement qui est tout le temps conditionnel, qui est tout le temps un peu la dernière roue du carrosse. Alors c'est pas vrai, c'est pas la dernière roue du carrosse, mais il y a un peu un côté, je pense que les droits trans sont souvent la dernière roue du carrosse, mais en même temps ça va ensemble, hein. On associe beaucoup les droits trans à quelque chose de... Bah, c'est lié aussi au rapport qu'on a avec la féminité, au rapport qu'on a avec le genre. Et cette semaine, alors il y a eu plusieurs choses. Google.
Ah bah justement, qu'est-ce qui s'est passé avec Google? Parce que moi, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé.
Alors, j'ai pas tout suivi non plus. J'ai lu un article de Wired qui était passionnant, qui disait, contrairement à ce qu'on imagine, le mec de Google n'est pas un cas isolé. Et moi, j'étais, quel mec de Google? De quoi on parle? Et donc, en fait, il y a... Donc, Google, il y a toute une politique interne de travail, de communication de travail, où il y a des messages... Il y a des systèmes de messagerie interne, de formes de discussion. Tu sais, parce qu'en fait, il y a tout un truc aussi où, soi-disant, alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai et depuis jusqu'à quand, mais en gros, enfin, ça a toujours été le cas ou pas, mais en gros, une des règles de Google, c'est que 20% de ton temps de travail est consacré à des projets personnels. Donc, des trucs que tu fais pour Google, mais qui sont à ta propre initiative. Okay. Et que tu as Gmail, enfin, Gchat, par exemple, ça a été développé comme ça, que des tonnes de trucs de Google ont été développés par des gens qui bossaient pour Google, mais qui avaient le droit 20% de leur temps à se consacrer à leurs propres idées, en fait. Okay. Et donc, il y a ça, il y a toute l'idée qu'il y a une culture hyper open, enfin, tu sais, où t'as un sushi bar, t'as des trucs de bonbons, de céréales, en fait, t'as des trucs, des cours de yoga, du massage, t'as tout qui est à l'intérieur de Google, qui est aussi une façon de te faire bosser 24h sur 24. Ouais, ouais. Mais du coup, il y a aussi il y a toute une idée que Google est le progrès sur le rapport au travail, mais aussi, du coup, ils sont censés être hyper évolués au niveau racial, genré et tout ça. Bon. Et en gros, il y a un connard à Google qui a écrit un mémo de 10 pages sur le truc de messagerie interne où il explique en gros qu'il faut arrêter les conneries avec... qu'en gros, c'est un espèce de coup de gueule en disant j'en ai marre de la discrimination positive vis-à-vis des femmes. Il faut qu'on accepte que biologiquement, les femmes, elles ne peuvent pas être d'aussi bons ingénieurs que les hommes. C'est juste pas possible. Et d'ailleurs, ça a été prouvé parce que la personnalité qui font comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et elles font juste embaucher parce que c'est des femmes, et on a marre de cette espèce de politique de « Oh, on va être gentil avec tout le monde, alors qu'il faut quand même accepter qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, blablabla. »
Je me souviens maintenant, ça y est.
Voilà. Et il a écrit un truc de 10 pages, il s'est fait virer. Mais en gros, une grande partie de ce qu'il a écrit... Et des réponses qui ont été données, des échanges ont été leakés par genre des tonnes de gens qui bossent à Google. Et un des trucs, c'était, l'article de Wired, c'était de dire, il y a plein de gens qui étaient d'accord avec lui.
Mmh. Ouais.
Et il y a tout un truc sur le sexisme de Silicon Valley, C'est un truc dans le quand le film sur Facebook était sorti dont on avait beaucoup parlé et tout. Et c'est rigolo parce qu'il y a vraiment ce côté où je trouve que c'est... Donc il y a tout un tas de gens qui ont dit tout un tas de trucs. Il y a un truc qui était intéressant dans l'article de Wired aussi, c'est que tu sens qu'il y a des gens qui sont à Google et qui se sentent oppressés par le fait que Google part du principe que tout le monde est de gauche, enfin est progressiste, et que notamment il y a eu des tonnes de messages internes qui ont été envoyés après les élections pour leur proposer de la thérapie de groupe. Comment avez-vous besoin de conseils pour parler à vos enfants de ce qui se passe en politique, des trucs de deuil, de machin par rapport au traumatisme de l'élection de Trump, qui était très mal vécu par des gens qui étaient d'accord avec Trump en fait. C'est pas parce qu'ils sont à Silicon Valley qu'ils sont hyper sophistiqués là-dessus. Ouais. Et c'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un qui a cherché à pousser le mec à dire, à voir s'il était raciste aussi. Et il a dit, est-ce que tu crois que ce que tu dis s'applique aussi aux problématiques raciales? Et il a répondu, ah, je suis pas sûre de pouvoir me prononcer parce que je m'y connais un peu moins bien en question raciale qu'en question de genre. Genre, il s'y connaît en question de genre. Parce qu'il a une théorie à la con comme quoi biologiquement les femmes peuvent pas être de bons ingénieurs. Ah! Donc voilà. Et les réactions vis-à-vis de ce truc-là, moi, quand je lis ça, le problème, c'est que je ne suis pas étonnée. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dérangeant. Et je voulais vraiment en parler parce que ça m'a vraiment pas préoccupée cette semaine. C'est dans le fait que on a toujours l'impression que le sexisme, c'est malgré tout, quand même, la raison pour laquelle c'est la dernière roue du carrosse, le féminisme, c'est parce qu'on a un peu l'impression que, ouais, mais c'est un peu nécessaire quand même, c'est un peu logique, c'est un peu normal, c'est un peu attendu.
Non.
Oui, mais oui, je trouve mais que le monde réagit toujours un peu comme oui, mais bon, quand même. Et ça, c'est tellement insupportable. Et c'est toujours, tu vois, quand enfin, l'élection, beaucoup de gens après l'élection de Trump ont parlé du fait que c'était le racisme qui avait gagné. Mais non, c'est la misogynie qui a fait que les gens n'ont pas voté pour Hillary Clinton. Et tous les gens qui me disent non, mais elle n'était pas aimée. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'était pas aimée? Il n'y a aucune raison valable à part le fait que qu'on la jugeait différemment parce que c'était une femme. Parce qu'on l'a traitée différemment parce que c'était une femme. Et c'est insupportable, quoi. Et du coup, bingo, le lendemain, je lis un papier sur un blog qui a été retweeté par Skyfleur. C'est un blog qui s'appelle Crêpe Georgette, je crois. Et c'est un papier, un coup de gueule qui s'appelle L'insupportable violence du féminisme. Et qui, justement, au contraire de son titre, parle du fait qu'elle en a marre de devoir s'excuser de la violence de ses propos, qui sont même pas violents. Et le fait que... Alors en plus, c'est quelqu'un qui est activiste sur la question des droits sexuels et de l'abus sexuel des femmes, et de la violence faite aux femmes, et aussi aux hommes, mais en tout cas de la question du viol, et qu'elle dit qu'elle en a marre que la réaction, que de toujours... Le fait qu'il y ait toujours une négociation nécessaire de comment t'exprimes les choses, quels mots t'as le droit d'utiliser, que tu passes plus de temps à réfléchir à comment tu vas dire un truc pour pas froisser les mecs, plutôt, parce que c'est souvent eux qui réagissent comme ça. Après, moi, je trouve qu'au niveau du féminisme, j'ai le même problème avec les femmes. Hein. C'est-à-dire, quand tu commences à parler à une nana du fait de féministe, et il y en a plein qui sont sur la défensive en disant « Ah non, mais moi, j'ai aucun problème. Moi, je me sens pas du tout opprimée. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Moi, je me sens tout à fait respectée. » Tu vois, comme si le fait d'admettre de souffrir d'une oppression systémique, c'était un truc pour dire que t'étais trop faible. Pardon. Et en gros, ce qu'elle explique, c'est que ce truc de considérer que juste le féminisme est violent, l'idée du féminisme est violent pour les mecs, c'est hallucinant en fait. Et qu'elle dit qu'elle en a marre, que des retours positifs qu'elle a de mecs de ces trucs, c'est toujours « Ah, ça m'a rassuré de te lire parce que pour une fois, je ne me suis pas sentie visée. » Elle dit vraiment, c'est ça votre... C'est ça. Et c'est un truc sur le fameux truc de « les femmes sont élevées pour être des objets et les hommes des sujets ». C'est que dans la situation, au lieu d'entendre l'histoire de quelqu'un d'autre, beaucoup d'hommes, aussi bien intentionnés soient-ils, n'entendent que « où est-ce que moi je me place ?» Dans cette histoire, où est-ce que je suis le sujet? Et donc ils vont s'accrocher à ce bout de parcelle où ils sont le sujet. Et donc le premier truc qu'ils pensent, c'est « ah, le sujet masculin, il est mauvais. Ah, donc j'aime pas ce que tu dis. Ah non, je peux être bon en étant un sujet masculin. Bon, ouf !» Mais la question principale qui est derrière, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'épouser un jour Zaron Burnett Jr., le journaliste qui a écrit un article sur le guide du gentleman.
Tu veux dire que tu vas l'épouser après Ben Affleck?
Je crois que Ben, il va pas. Zaron, en même temps, j'ai aucune chance avec Zaron non plus, il est sublime. Mais de toute façon, c'est pas un critère, mais. Tu m'as perturbée, c'est cool, je me suis vue mariée avec Ben Affleck et c'était trop beau. Et on est en train de dépasser notre temps de parole. Toujours est-il que Zahran avait écrit un truc sur Huffington Post il y a quelques années qui s'appelait The Gentleman's Guide to Rape Culture, qui était une explication de pourquoi la culture du viol, c'était un truc qui concernait notamment les mecs et qu'il fallait se poser des questions dessus, et que c'est pas parce que t'es pas un violeur que c'était pas ton problème. Et je trouve ça très juste. Et ce truc de l'insupportable violence du féminisme, il y avait vraiment le côté, c'est clair que je passe mon temps, quand je parle de féminisme, faut d'abord que je justifie la pertinence du fait d'être féministe. C'est très souvent le cas. Et ce qui me rend folle, c'est que c'est la preuve même qu'on ne respecte pas la parole des femmes ou la parole sur les femmes. Mmh. Et c'est rigolo parce que Lady Teruki m'a répondu justement « Ah, oh, mais c'est la loi de Lewis. » Et j'ai fait « C'est quoi la loi de Lewis ?» Et la loi de Lewis, c'est que tous les commentaires postés après un article traitant de féminisme prouvent la nécessité du féminisme.
Ouais, tu m'as dit ça, c'était... Ouais.
Et je trouve ça hyper fort. Et juste après, j'ai lu une interview d'une dramaturge de 65 ans qui s'appelle Paula Fogel dans la Lenny Letter, donc la newsletter créée par Lena Dunham et Jenny Connor, les showrunners de Girls, et qui s'appelle The Myth of the Angry Feminist. Et elle parle de plein de choses qui sont vraiment passionnantes, mais notamment elle parle du fait qu'on a créé un mythe que de la féministe enragée et en colère. Et en fait... Je le comprends, parce qu'il y a des gens sur Twitter, notamment des féministes françaises, qui ont tendance à souvent prendre la parole pour exprimer de la colère. Ce que je peux comprendre, je veux dire, on en a tous ras la casquette de ces conneries, mais le problème, c'est que c'est souvent juste ça à qui on donne de l'espace, à quoi on donne ce qu'on reporte après, ce qu'on rappelle, ce qu'on retweet. Et du coup, ça donne une image... uniquement en colère. Et souvent, je trouve que cette colère contre les hommes est injustifiée, parce que pour moi, c'est une colère contre la société, contre les structures. Et comme je dis, je suis très souvent frustrée avec des femmes d'avoir des conversations là-dessus. Et Sky Fleurette, je préfère utiliser les noms Twitter, elle s'appelle @SkyFleur, disait qu'elle, m'a répondu sur Twitter qu'elle était complètement folle depuis quelques semaines, parce qu'il y a une nana qui était à la télévision tous les jours et que chaque fois qu'elle interviewait un homme politique, elle s'excusait de l'interrompre. Chaque fois qu'elle interviewait une femme politique, elle l'interrompait tout simplement. Et qu'elle devenait complètement tarée parce qu'elle était là, mais comment tu vois pas la différence ? Et voilà, ces trucs-là sont intégrés par tout le monde. Les femmes ne savent pas mieux, mais c'est pas parce que c'est des questions de nana que ça concerne pas les hommes.
Il y a cette vidéo qu'on a regardée de Ashley Jude.
Oui.
Aussi, qui te montre la façon dont
les femmes sont traitées. Donc là, je l'ai déjà, l'actrice a fait une vidéo à l'aéroport, en fait, parce que quand elle est passée à la sécurité, le mec l'a appelée sweetheart, lui a touché le bras, lui a commenté sa robe et tout, et elle a fait toute une vidéo en disant, mais aucun de ces trucs n'est normal, quoi. C'est hallucinant. Il a fait aucun commentaire à personne d'autre, il a appelé personne d'autre comme ça, il a touché le bras de personne d'autre. C'est totalement inadmissible que ce soit accepté et que nous, en tant que nana, on fait oui, c'est pas grave, c'est machin. Et c'est incroyable à quel point ce truc de... C'est rigolo parce qu'au papa Pierre, il y avait une amie, l'amie d'Esther justement, qui tout d'un coup... Il y a un jeune homme qui avait l'air psychologiquement un peu... Je ne sais pas s'il avait des... Quel type de troubles il avait, mais il avait clairement des troubles. Il avait clairement pas de sens de ce qui était approprié ou pas approprié. Mmh. Et il s'est mis dans la foule et il lui a pris la main. Il l'a fait se lever. Il a voulu la faire tourner autour d'elle-même. Puis ensuite, il l'a pris dans ses bras et il l'a serré très, très fort. Et en fait, nous, on n'a pas tout de suite réagi parce qu'on n'arrivait pas à savoir exactement ce qui était en train de se passer. Et ensuite, quelqu'un lui a dit de lâcher et il est parti. Et en fait... Tu sentais qu'elle s'est sentie attaquée, en fait. Et qu'elle, ça l'a vraiment perturbée. Et c'était un gamin, je sais pas, il était jeune, il avait peut-être 15 ans ou peut-être 22 ans, mais en tout cas, il faisait très très jeune.
Oui, c'est très jeune, ouais.
Il n'y avait pas spécialement d'intention de violence ni quoi que ce soit. On avait l'impression que c'était juste quelqu'un qui voulait du
la contact. La tendresse, une sorte... Mais bon.
Et du contact physique, mais à quel point c'était...
Tendresse forcée, quoi. Donc en gros, il...
Et tu sentais que c'était aussi vécu comme aussi intrusif par elle. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas super bien réagi parce qu'on a eu tendance à diminuer.
Tout à fait.
On a minimisé ce qui s'était passé alors qu'en fait, on aurait dû reconnaître, elle, ce qu'elle a ressenti. Mm-hmm. Mais c'est aussi parce qu'on a toujours ce sentiment de potentiel danger. Pas de potentiel danger d'être violée, mais de potentiel danger d'être envahie, en fait. Mm-hmm. Même de façon minime.
Sa copine lui a demandé si elle comme dit, est-ce que ça va ? Enfin, tu vas bien ? Ça va ?
Ouais, c'était... Et c'est vrai que c'est... Bah, en fait, on a eu tendance à minimiser parce qu'on a tout de suite vu que le gamin était en détresse aussi. Et du coup, on a eu envie de le défendre en détresse, même si on ne l'a pas défendu. On lui a dit tout de suite, oui, c'est terrible que ça se soit arrivé. Enfin, c'est pas agréable, mais bon. Mais on l'a quand même minimisé. On l'aurait pas dû. Mais c'est compliqué de gérer ce genre de truc. C'est compliqué d'être activiste dans la vie quotidienne. Tout ça pour dire que toutes ces questions-là m'ont fait encore plus penser à ce fait que c'est tellement injuste que quelque part, le féminisme... soit considéré comme quelque chose de moins important que toutes les autres.
Mais il y a eu aussi, je pense juste à ça maintenant, mais il y a eu le poste d'Elvire, là, avec le viol qui s'est passé à Marseille.
Oui, c'est ça, on a une
amie... j'ai vu un retour, elle a posté le poste d'une de ses amies qui était avec elle à Marseille, c'était sur une terrasse de café, et ils se sont rendus compte, après un moment, qu'il y en a qui se faisait violer à côté d'eux, en fait. Elle était inconsciente et il y avait un mec bourré qui l'a violée, en fait. Et en gros...
En plein après-midi.
En plein après-midi, sur une... Enfin, on ne sait pas où c'est, mais bon, c'était à Marseille. Et en gros, donc elle poste le récit de son amie qui a vraiment fait un post en expliquant ce qui s'est passé.
Notamment le moment où elles se sont rendues compte, elles sont intervenues, le mec s'est enfui, ils ont appelé la police, les pompiers, il a fallu convaincre la fille que c'était pas normal ce qui lui était arrivé et que le mec devait être en prison. Il a fallu la forcer.
Elle était inconsciente, donc en fait, ils ont dû la réveiller.
Et ensuite, la forcer à aller avec les pompiers.
Et elle disait qu'elle se souvenait pas. Enfin, elle s'en souvient pas. Elle sentait quelque chose de désagréable, mais bon, elle était juste inconsciente, donc elle s'en souvenait pas, quoi. Alors que... à partir de là, il y a eu des réponses sur Facebook où justement donc Elvire a commencé à poster les réponses qu'elle a eues par rapport aux Parisiens, parce que ça avait paru dans le Parisien. Et il y avait les réponses
des
internautes, quoi, enfin, qui les commentaires. Et en gros, c'était hallucinant. Hein. C'était genre, parce que ces nanas-là font partie du Femen aussi. Donc en gros, c'est des féministes activistes. Et en fait, ils disent, mais pourquoi tu crées une histoire pour te rendre intéressante mais la nana, elle n'a pas crié. Que des trucs comme ça, en fait, en gros. Genre, mais t'as rien d'autre à raconter d'intéressant à la place de créer des trucs. Genre, c'est que des mecs, hein, la plupart. Hein. Genre, un mec va violer quelqu'un en plein jour. Non, mais... Et sur une terrasse. Non, mais... vous avez plus rien à raconter, les fémènes.
Et donc
c'est
voilà.
Comme ça, sur des pages, vous pouvez commencer à chercher un petit peu, mais c'est hallucinant.
Et du coup, voilà, c'est un sujet important dont il faut parler tous les jours, parce que le féminisme, c'est des droits civiques qui concernent tout le monde. Je pense que la problématique, je pense que si les femmes... en réalité, je pense qu'il y a tout un problème, soyons clairs. Hein. Rien que le fait que les femmes soient opprimées devrait être un truc qui intéresse tout le monde. Mais au-delà de ça, ça a des vraies influences sur la vie des hommes aussi. Ça a des influences sur les relations amoureuses, ça a des influences sur les mariages qui finissent en divorce, ça a des influences sur l'éducation des enfants, ça a des influences sur la politique, sur la guerre, ça a des influences sur tout le reste. C'est sans parler de l'imbalance, du manque de balance économique que cela crée dans tous les pays du monde, mais aussi dans les pays occidentaux. Tout ça, c'est des questions essentielles. Et si vous avez des enfants, vous devriez particulièrement vous poser des questions, que ce soit des filles ou des garçons. Et je pense qu'il faut arrêter de penser que c'est un petit sujet. Ce n'est pas un petit sujet. C'est un sujet fondamental. Et le fait même qu'on a tendance à dire « Ah oui, mais bon, quand même. » Il y a toujours ce côté « Oui, mais bon, quand même. C'est bien quand les nanas restent à la maison pour s'occuper des enfants. » Tu vois, il y a une espèce de... Il y a quand même un fond de réflexion comme ça qui, du coup, ancre cette injustice dans le quotidien. Et cette injustice, ça crée du trauma, ça crée d'autres injustices, ça crée de la haine, ça crée tout un tas de choses. Alors, on aurait voulu, parce que cette semaine, ce week-end, il y a aussi des événements épouvantables qui se sont passés à Charlottesville. Justement, parlons à nouveau de la côté... qui pourrait nous pousser à parler de questions ethniques et raciales. Alors, je sais, racial, c'est toujours bizarre en français, mais c'est quand même le mot. Le plus proche de racial, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes concepts, mais quand même, c'est le mot qu'on utilise en français. Ouais. Je pense qu'on n'a pas le temps d'en parler de la bonne façon. Je pense que j'ai besoin de regarder toute la couverture médiatique.
On peut en parler la semaine prochaine.
Voilà, et j'ai envie de regarder le Daily Show et ce que fait John Oliver et tout le reste avant d'en parler. J'ai envie de lire 2-3 trucs, écouter 3-4 podcasts.
C'est bien, là, c'était féministe, là. Et
la prochaine fois, on parlera du racisme.
Du racisme, yeah, qui est lié.
Donc on a vendu ce podcast, c'est un truc hyper fun, on va parler des events et de la bouffe qu'on fait à Berlin. Et aussi on va vous déprimer.
Yeah, but that's life. C'est la vie quotidienne.
La vie quotidienne, et oui, et je pense que... Et ça colore complètement notre amour de la pop culture.
Tout à fait.
C'est aussi pour ça que j'aime la pop culture, parce que je pense que la réelle vraie solution, elle est là-dedans, elle est dans de la création de fiction qui représente d'autres valeurs, d'autres choses, qui montrent des solutions et pas juste des problèmes. Hashtag Game of Thrones, arrêtez la violence. sachant que... Ah oui, non, je voulais quand même que tu dises que le troisième épisode de Game of Thrones, ça avait vraiment, vraiment plu. Donc, par rapport au fait que tu t'es fait chier... Non, le quatrième. Le quatrième. Tu t'es fait chier un peu précédemment.
J'aurais toujours cette tranche de constipé. Mais sinon, non, c'était vachement mieux. C'était beaucoup mieux.
Mais je voulais qu'on termine sur... Ah oui, je voulais dire aussi que j'ai découvert un truc génial qui est le best-of de Craigslist, où il y a des trucs qui sont... C'est les utilisateurs qui votent pour certains trucs, et si tu lis le truc des best-of, c'est vraiment des annonces à mourir de rire. Donc ça, ça m'a
j'ai
un peu...
J'ai vu que tu avais posté ça sur Twitter, non?
Ouais, j'en ai posté sur Twitter et sur Facebook.
Mais à checker, oui. J'ai pas checké encore.
On va terminer sur une chanson. Alors d'abord, suivez-nous, partagez-nous, commentez. Laurent, merci d'avoir commenté.
Oui, merci,
si
Laurent.
Et tu as complètement raison, John Hams, il a juste la classe internationale.
Et la musique de Baby Driver est absolument géniale.
On est complètement d'accord avec toi, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. En tout cas, merci pour le commentaire. J'espère que vous autres aussi allez commencer à commenter. Donnez-nous votre avis, dites-nous ce que vous aimez dans cette émission, ce que vous voudriez qu'on fasse plus, qu'on fasse moins aussi. On ne sait pas si on va vous écouter, mais bon, vous avez le droit de le dire aussi. Dites-nous si vous aimez qu'on parle de musique. On essaye de raccourcir les podcasts justement pour que la musique soit de meilleure qualité sans dépasser la lourdeur d'un podcast acceptable. En tout cas, nous, ça nous éclate de faire ce podcast et on espère qu'on va continuer à le faire longtemps et on espère que ça vous plaît et que ça vous inspire et ça vous donne envie d'aller au cinéma, de lire des bouquins, de réfléchir à la politique, d'aller faire des wine tasting dans des pop-up qui ne sont pas des pop-up. Avant de vous quitter, on vous rappelle qu'on est sur Twitter, on est sur Instagram. Alors moi, dans les deux cas, c'est YaelKYAELKA, mais sur Instagram, il y a deux A à la fin. Il y a aussi le Twitter du site I Cannot Sit Still, avec un seul L à la fin. Et aussi, bien sûr, le site lui-même, que je vous invite à regarder de façon régulière, parce que comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui y vont. Il y a aussi le notebook de YaelKA, où je mets des updates sur tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que j'écris. Toi, Marine, on te trouve où ?
Moi, sur Twitter, je suis Marskaya, M-O-R-S-K-A-Y-A. Et sur Instagram, je suis Écureuil Berlinoise.
Et donc
Écureuil, toujours, E-C-U-R-E-U-I-L, Berlinoise, B-E-R-L-I-N-O-I-S-E, accroché.
Et vous n'imaginez pas combien de gens ne savent pas épeler Écureuil. On va terminer avec la chanson de Marine. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et bonne pop d'ici là.
Alors ma chanson, c'est aussi, c'est tiré aussi de tout ce qu'on a écouté récemment avec le mix pour Thibaut. Et en gros, moi c'est Creep, donc petite chanson inconnue au bataillon, de Radiohead, qui date de 92, mais qui est sorti en 92, mais qui n'a pas fait du tout de bruit. À partir du moment où l'album Pablo Honey est sorti en 93, ils ont ressorti la chanson qui a fait le premier charts. Enfin, ça a été machin. Super. Donc moi, c'est vrai que je la connais de cette période-là, mais quand j'ai rencontré Yael, en fait, il y a une nouvelle version qui est sortie, qui était une sortie...
Sur My Iron Lung.
My Iron Lung, qui était une version live
acoustique
qui était sublime. Et c'est vrai que ça a replongé tout cet amour de cette chanson, en fait. Et c'est vrai qu'on l'écoutait assez en boucle, toutes les deux, et que c'est un
nous
grand
et toute
moment.
Une génération.
Toute une génération, parce que quand j'étais en école d'art, je me souviens très bien, j'ai eu ce retour. On chantait Creep dans la cour, après chaque cours de notre... où on avait des cours absolument atroces, avec deux mecs atroces. Et à chaque fois, on sortait, on disait Creep, et on chantait Creep à fond, parce que... On parlait un peu de ce cours qui était chiant. Voilà.
Nous ne dirons pas le nom de l'école d'art.
On peut dire de l'école d'art. C'était Penningen, les SAG, Penningen, Académie Julien, Rue du Dragon.
Ok, on balance. On va écouter du coup la version acoustique ou la version classique.
Ben, je préfère qu'on mette la version acoustique parce que c'est plus...
C'est plus nous.
C'est plus nous, ouais.
Bon, bah, Creep de Radio.
when you were here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a control. I want a perfect garden. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong here?
Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu dis rien. Du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui parle toute seule, qui fais un tunnel et que toi, tu te fais chier.
Oui, mais
fait.
C'est tellement, c'est tellement. Je bute et je vois tes paroles.
Ça, je l'ai coupé.
Ah, mais
ça, je l'ai coupé.